comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur les ondes de Radio Albitzes et de son émission hebdomadaire comme un lundi, à midi pour le direct et à 18h pour la rediffusion. On est ensemble pour environ une heure autour d'actualités diverses de l'Albigeois et au-delà. Nous avons notre tout jeune et tout beau Melvin à la technique. Salut Melvin.
Salut.
Et pour co-animer ce comme un lundi de ce lundi 27 septembre 2021, je suis en compagnie d'Arnaud. Salut Arnaud.
Salut Will.
On salue aussi bien bas notre ami Hoggins de notre non moins ami Radium à Castres pour son aide précieuse qui a permis que nous puissions faire cette émission en direct. Et de quoi on va parler dans cette émission qui vient, Arnaud ?
Alors, comme d'habitude, comme tous les lundis, on terminera avec les messages du répondeur. Cette fois-ci, une recherche de colocation. Madame Java n'est toujours pas contente et elle nous le fait savoir avec un texte, que dis-je, un pamphlet à retrouver en fin d'émission. Enfin, on parlera du festival du film documentaire Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui se déroule le 8, 9 et 10 octobre prochain. 3 jours de cinéma, d'exposition, d'intermèdes très théâtraux, de musique et de surprises sur les pas de Christophe de Pomphilly. Or, qui est Kizako ? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là, Christophe de Pomphilly ? Donc, pour le savoir, n'hésitez pas à rester branché. On écoutera aussi un peu de musique avec l'artiste John Black qui sera en concert ce jeudi 7 octobre prochain à la MJC d'Albi avec le Totem Crew, fameux collectif de rappeurs albigeois. Madame Eva Géraud, vice-présidente au conseil départemental, nous présentera le premier budget participatif Tarnais avec un budget de 1 million d'euros pour réaliser les projets proposés par les Tarnais et choisis par les Tarnais. La 10e édition de la Biennale des Verriers qui se déroulera du 1er au 3 octobre au domaine de la Verrerie près de Carmaux avec des centaines de pièces uniques parmi les 50 stands de créateurs verriers. On écoutera l'interview de Laurent Subra, directeur des musées, pour en savoir un peu plus. Et on commencera avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, pour nous présenter une journée sport santé qui se déroulera ce mercredi 29 septembre du côté d'Albi. Voilà pour ce beau programme. Mercredi 22 septembre dernier, Radio Albigeas était présente sur le campus Champollion pour le festival de rentrée La Cour des Miracles. Nous avons pu à cette occasion réaliser des interviews avec les nombreuses associations et structures. Des interviews à retrouver cette semaine dans le créneau Écho des Campus le jeudi à 16h et le vendredi à 8h du matin sur Radio Albigeas. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'interview de la CPAM, l'assurance maladie du Tarn, qui en collaboration avec le comité départemental olympique et sportif du Tarn organise une journée sport santé. Radio Albigeas est installée à l'université Champollion pour le festival de rentrée La Cour des Miracles et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir la CPAM avec Mélodie du service prévention. Mélodie, bien le bonjour.
Bonjour.
Et on a aussi Simon qui est étudiant en master. Simon, bonjour.
Bonjour.
Et toujours accompagné donc de Zoé de Radio Champo. Rebonjour Zoé.
Rebonjour.
Alors la CPAM est présente aujourd'hui sur le campus Champollion pour proposer un Escape Games. Alors Kizako, cet Escape Games.
Ah, qu'est-ce que Kizako, un Escape Game? Alors ben, c'est le premier Escape Game santé, on peut même dire du Tarn, voire même de la région, puisqu'il n'y a que 2 Escape Games santé sur toute la France. Donc il est intitulé « À la recherche d'Amélie ». Donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, un Escape Game. Donc une équipe d'environ, on va dire, 5 élèves, 5 personnes qui sont enfermées dans une salle pendant 30 minutes et qui doivent donc résoudre des énigmes pour pouvoir s'échapper de cette salle et voir qu'est-ce qui est arrivé à notre Amélie. Donc au niveau de l'objectif de ce jeu, c'est vraiment promouvoir en fait tout ce qui tourne autour des bons réflexes concernant l'accès aux droits, donc ce qui tourne autour de l'assurance maladie. Donc ça va être ouvrir son compte Amélie, bien déclarer tout ce qui est changement de situation, etc. Mais aussi au niveau de la la prévention, donc au niveau de tout ce qui est santé sexuelle, addiction, etc. Donc c'est vraiment le but, il y a des énigmes à résoudre pour pouvoir sortir de cette salle.
Et ça a été le cas pour Simon. Simon, toi, donc, tu es sorti, tu as réussi à sortir de cette escape game.
Effectivement, je suis sorti vainqueur de cette escape game qui était assez intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, notamment donc sur la contraception, sur tout ce qui est en rapport avec les drogues, l'alcool, tout ça. C'est très intéressant, on apprend plein de choses.
La CPM et le service prévention est présent régulièrement sur le campus ou c'est une première pour vous ?
Alors nous sommes venus, effectivement, nous essayons de venir régulièrement. Nous sommes venus dans le cadre du mois sans tabac également, proposer des animations. Donc c'était il y a 2 ans, puisqu'effectivement avec le Covid, malheureusement, on a eu une année blanche, hein, il faut, au niveau de tout ce qui est sorti, notamment comme ça en extérieur. Mais effectivement, nous travaillons en forte collaboration avec la fac. Donc on aura peut-être même l'occasion, voilà, si c'est possible, de revenir, et ce sera avec grand plaisir.
Et pourquoi pas au micro de Radio Champose,
oui. Oui, bah, tout à fait, nous serons ravis de vous accueillir.
Avec plaisir.
Vous avez un événement qui arrive mercredi prochain, le mercredi 29 septembre, une journée sport-santé.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est une journée sport-santé que nous organisons sur le parking de la CPM, donc avenue Gambetta à Albi. Donc comme son nom l'indique, le but c'est de parler sport. Alors ça va être plus activité physique au sens large. Hein. Le but c'est pas de courir un marathon, mais c'est plus de voir que l'activité physique est importante et qu'elle a de nombreux bienfaits sur la santé. Et aussi donc de parler de la santé en général. Donc lors de cette journée, 4 comités sportifs seront présents. Donc Handisport qui va proposer de l'handibasket, le football américain, un comité de vélo. On a également sport adapté, donc ça c'est une large variété au niveau des comités sportifs. Il y aura une activité aussi tir à l'arc et biathlon, donc carabine laser qui seront proposés. Il y aura également un stand sur les gestes de premier secours, un stand sur l'accès aux droits et aussi sur la prévention qui fait partie aussi de nos missions. Donc voilà, c'est une journée qui est entièrement gratuite, donc 9h-17h, donc n'hésitez pas à venir nombreux.
Vous venez d'entendre l'interview de Mélodie de la CPM du Tarn pour la présentation de la journée sport santé qui aura lieu donc ce mercredi 29 septembre de 9h à 17h à l'agence CPM d'Albi située avenue Gambetta.
Le musée Centre d'Art du Verre vous attend pour sa 10e édition de la Biennale des Verriers. On a eu son directeur au téléphone, on écoute ça tout de suite. La Biennale des Verriers aura lieu les 1er, 2 et 3 octobre prochains, un événement grand public organisé par le musée Centre d'Art du Verre et porté par la communauté de communes Carmozin-Ségala. Au fil des éditions, elle s'est affirmée comme le premier salon consacré au verre contemporain en France, avec plus de 6000 visiteurs en 3 jours. Nous sommes en ligne avec Laurent Subra, directeur du musée et centre d'art du verre de Carmo, pour nous parler de la 10e édition de cette Biennale des Verriers. Laurent Subra, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de cette 10e édition, c'est bien ça ?
Oui, 10e édition. Ouais.
On va parler peut-être du passé récent du musée et de l'action Musée du Verre Nomade. Est-ce qu'on peut en parler avant d'aborder la Biennale ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un dispositif que nous avons mis en place depuis cette année, suite à la fermeture du musée et du domaine de la verrerie au public, dans la perspective de travaux futurs, pour rouvrir le musée dans de bonnes conditions et donc un musée qui devienne nomade tout ce temps de fermeture avec plusieurs étapes et donc une actuellement qui a lieu à Pampelonne, à la mairie, à la médiathèque de Pampelonne. Donc c'est une exposition qui retrace le contenu des collections du musée, donc depuis les verreries forestières au XVe siècle dans les forêts tarnaises, jusqu'à la verrerie ouvrière aujourd'hui, et bien sûr tout le volet collection d'art contemporain que le musée possède. Voilà, donc c'est une façon de retrouver le musée sur les routes.
Alors justement, on parle de musée et de centre d'art. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire, l'historique de ce musée centre d'art et pourquoi mêler ces deux aspects.
Le musée voit le jour, comme la plupart des musées appartiennent à une collection d'un patrimoine local, donc c'est celui des verreries, de la verrerie royale et des verreries de Carmont, intimement liées à la famille de Soulages et à l'exploitation des mines. Donc ça, c'est dans les années 80. Et donc c'est d'abord, la spécialité, c'est la production de bouteilles. Et les collections vont évoluer avec le temps, à partir du début des années 2000, avec la création d'un atelier verrier dans l'ancienne chapelle de la famille de Soulages, à proximité du musée, et le lancement de la première biennale en 2003. Et donc là, une collection d'œuvres contemporaines s'est créée petit à petit au fil des ans, et des résidences d'artistes se sont mises en place au sein de l'atelier verrier, pour accueillir de jeunes verriers et aussi des plasticiens non verriers, des designers qui sont venus réaliser des pièces avec les verriers. Voilà, donc c'est une construction qui s'est progressivement installée entre un lieu vivant de création artistique, de production d'œuvres et un lieu de conservation d'un patrimoine et de collection, donc qui justifie à la fois le terme centre d'art et le terme musée.
Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre une autre matière bien connue dans le Carmonzin, le charbon et le verre ?
Oui, le chevalier de Soulages qui a créé la verrerie royale en 1754 au domaine de la verrerie était également propriétaire, enfin en tout cas avait la concession de l'exploitation des mines et du charbon de Carmon. Et il utilise son charbon local pour alimenter les fours de la verrerie. À l'époque, on était encore dans une transition entre l'usage du bois et du charbon. On avait du retard par rapport aux Anglais qui utilisaient déjà au XVIIe siècle le charbon dans son industrie. Et à l'époque, Louis XV et notamment Colbert encourageaient la conversion de l'industrie pour passer du bois au charbon. Et donc, le chevalier de Soulages a créé une des premières verreries dans le sud-ouest languedocien, au milieu du XVIIIe siècle, qui valorisait le charbon de terre. Voilà, donc verre et charbon sont intimement liés.
Alors, Laurent Subrin, à Radio Albitzès, on aime bien dévoiler un peu les coulisses des institutions, notamment dans un souci de transparence. Est-ce qu'on peut parler, au-delà de l'histoire du musée Centre d'Art que vous nous avez raconté, quelle était la volonté au départ et comment c'est financé, de qui dépend en fait ce musée, de quelle institution ?
À l'origine, le musée est né d'une volonté associative. C'est concomitamment avec la création du musée Mine à Cagnac, qui a été créé par des mineurs. Et donc, ce sont des habitants qui ont créé une association qui s'appelait le CEPACIM à l'époque, et donc qui gérait les deux musées. Donc, vous aviez le musée à l'époque qui s'appelait le musée du château et le musée Mine. Et donc, c'est en 2003 que le musée Mine devient propriété et gestion du département. Et le musée du Verre, lui, revient à la communauté de communes du Carmonzin à l'époque, qui a repris la propriété des collections et du personnel, qui a géré le personnel aussi, embauché le personnel, en lieu et place des associations qui auront existé pendant une vingtaine d'années.
Voilà. Alors justement,
oui. Musée public.
Ça représente combien de personnes, un personnel ?
Aujourd'hui, depuis la fermeture du musée, un peu moins de monde, hein, puisqu'on est trois personnes sur le musée, et on fait d'autres choses aussi à côté pour la communauté de communes, au niveau des activités culturelles et de communication. Et voilà. Donc, et après, on a pour la biennale du renfort d'agents de la communauté de communes qui viennent aider, participer à cet événement.
Alors la biennale, on y arrive, donc 10e édition, on le rappelle, les premiers 2 et 3 octobre prochains, c'est des vendredis, samedi, dimanche, un week-end, donc un grand événement, grand public, mais aussi pour les amateurs éclairés, si on veut dire.
Oui, tout à fait, qu'on soit curieux ou connaisseur, on trouvera toujours son bonheur à la biennale. C'est un salon qui est à la fois exigeant au niveau de la qualité, mais aussi très populaire et facile d'accès. Je crois que la matière, le verre, le permet, et le fait de pouvoir rencontrer directement les verriers, les créateurs, c'est une occasion unique. Et qu'ils ont le plaisir de partager leur savoir-faire, leur amour de cette matière. Donc, qu'on n'y connaisse rien ou qu'on soit connaisseur, on se sent bien accueilli.
Il y a beaucoup, beaucoup de noms, on peut le voir sur votre site internet, d'artisans, d'artistes verriers, qui seront là. Il y aura aussi, sous un chapiteau, un four portatif pour initier le public, notamment pour s'exercer aux techniques du verre et repartir avec sa propre création, ou encore des démonstrations donc sont proposées sous ce chapiteau à proximité du salon. C'est aussi une façon de montrer que ces métiers sont toujours vivants et ils bougent. C'est pas juste muséifier les choses, c'est pas du tout le principe.
Oui, c'est vivant. Alors les démonstrations seront proposées, des démonstrations de verre soufflé à la canne et de verre tiré au chalumeau. Pour les démonstrations de verre à la canne, malheureusement, dans le contexte sanitaire, on ne pourra pas proposer au public de souffler soi-même et de réaliser sa pièce. Ce ne sera pas possible au niveau de l'hygiène, même en nettoyant la canne, c'est trop de risques. Voilà, donc il faudra se contenter des démonstrations et des échanges avec le souffleur de verre. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier encore.
En effet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois jours? Il y a plusieurs temps différents. L'entrée donc de l'expo-vente gratuite le vendredi 1er octobre, et ensuite il y a une entrée à 2 euros, c'est ça?
Voilà, l'entrée est à 2 euros le samedi et le dimanche pour les plus de 12 ans. Et voilà, ensuite vous avez aussi donc 54 exposants à découvrir. La verrerie ouvrière d'Albi également sera présente avec des anciennes lavéois qui viendront partager leur amour de cette matière et de leur métier. Nous aurons aussi un stand de nos partenaires de la Chambre de métiers de l'artisanat qui présentera les propositions de formation, notamment aux verriers, dispensé par l'Université régionale des métiers d'art. Voilà, on pourra aussi en savoir plus sur le verre recyclé, puisque Trifil animera un stand avec des activités sur l'usage du verre dans le cycle du tri. Voilà, encore plein d'autres choses à découvrir. On n'a pas parlé du prix de la jeune création aussi, mais avec Anaïs Dune, qui va présenter une installation monumentale et assez impressionnante. Donc elle a remporté une bourse pour réaliser cette œuvre. Donc c'est le prix de la jeune création qui est porté par le Musée du Verre depuis c'est la deuxième édition. Voilà, donc ce sera aussi une belle rencontre, puisque l'artiste sera là pendant les trois jours pour parler de son travail et on pourra voir et écouter son œuvre, puisque c'est aussi une pièce sonore.
Et tout ça se passe donc au domaine de la verrerie, qui est situé donc aux portes de Carmaux, sur la commune de Blaye-les-Mines.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurence. On donne rendez-vous donc aux auditeurs et aux éditrices les 1er, 2 et 3 octobre prochains pour cette 10e biennale des verriers et des verrières. Et on retrouve donc toutes les infos sur votre site internet. Et donc on rappelle aussi que l'ouverture, c'est de 10h à 19h tous les jours, donc 1er, 2e et 3 octobre de cette année 2021. On vous souhaite une bonne biennale et une bonne fin d'année.
Merci. Merci à vous également.
Et on ajoute aussi une information, l'accès à la biennale est soumis à présentation d'un pass sanitaire pour toute personne de plus de 12 ans.
Allez, on continue avec des extraits de notre plateau radio enregistré sur le campus Champollion lors du festival La Cour des Miracles le mercredi 22 septembre dernier. Nous avons rencontré Madame Eva Géraud, vice-présidente du conseil départemental, qui nous présente le lancement du premier budget participatif Tarnais.
Bonjour, donc effectivement je suis Eva Géraud, conseillère départementale, vice-présidente du département en charge de la citoyenneté, mais également des archives départementales et des musées départementaux du Tarn. Et dans le cadre de la citoyenneté, j'ai en charge le dossier du budget participatif. C'est le premier budget qui est ouvert par le conseil départemental du Tarn, pour lequel il a été voté une enveloppe de 1 million d'euros. Pour permettre à tout citoyen tarnais de pouvoir déposer un projet qui pourrait aider au développement du Tarn. Un projet qui lui ressemble et un projet qui lui tiendrait à cœur. Voilà. Donc ces projets sont à déposer sur notre plateforme participative, sur l'adresse budgetparticipatif.tarn.fr. Et à ce titre-là, donc, chaque Tarnais âgé de plus de 16 ans pourra effectivement déposer son projet, soit lui tout seul individuellement, soit par le biais d'une association, soit par le groupement de plusieurs personnes.
Les projets qui seront déposés sur cette plateforme doivent aussi correspondre et doivent respecter un règlement.
Oui, effectivement, sur l'adresse du budget participatif du Tarn, vous trouverez effectivement ce règlement qui vous indique comment le projet peut être éligible et dans quel domaine on peut intervenir pour déposer son projet. Voilà, il faut que ce projet concourt au développement de la cohésion sociale et territoriale ainsi qu'à la notoriété du Tarn. Il faudra bien sûr qu'il soit suffisamment précis pour qu'on puisse l'estimer juridiquement et qu'il puisse aussi être estimé financièrement par celui qui porte le projet. Et il doit concerner essentiellement et exclusivement des projets en investissement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intervenir sur l'aspect fonctionnement d'une association, par exemple, ou d'une action en direction des projets qui seront développés.
Alors je vois aussi que ce projet doit relever des compétences et des initiatives départementales. Peut-être justement on peut les présenter, ces compétences départementales.
Alors les compétences, la compétence essentielle du département, c'est la compétence sociale. C'est-à-dire qu'on aide la personne, du bébé jusqu'à la personne âgée. Et ensuite, on intervient également sur la culture, sur le sport. On aide au développement de la culture, du sport, de la jeunesse. On encadre aussi la jeunesse. Toujours dans le cadre de la compétence principale du département.
Alors on sort, enfin on espère sortir de cette crise sanitaire du Covid-19. Les projets qui vont être déposés vont concerner la cohésion sociale. Et justement cette crise du Covid-19 a mis en avant justement qu'on en a de plus en plus besoin de cette cohésion sociale.
Alors, bien sûr, déjà, on est très heureux que la vie sociale puisse reprendre vie. Hein, on le voit aujourd'hui sur le forum des associations étudiantes dans le campus d'Albi. Et on voit effectivement que tout le milieu associatif est en train de se réveiller de cette longue pandémie, de ces longs confinements qui nous ont tous paralysés. Dans cet intervalle, et pour justement permettre au milieu associatif de pouvoir rebondir et de sortir de cette pandémie, le département du Tarn a voté dans l'intervalle entre 2019 et 2020 une enveloppe spéciale d'aide de 750 000 euros pour maintenir ce tissu associatif à la surface, en vie, et qu'il puisse repartir dans de bonnes conditions, en tout cas en n'ayant pas de soucis financiers à gérer. Donc on a assuré ce soutien auprès de tout ce tissu associatif, quel que soit son domaine d'intervention, qu'il soit culturel, social, sportif ou en direction de la jeunesse et autres. Voilà.
Merci Madame Eva Géraud. Donc je rappelle que vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge de la citoyenneté, mais aussi des archives départementales du Tarn. Peut-être un mot à rajouter ?
Alors peut-être un petit mot à rajouter, oui. Dans le cadre de ce budget participatif, on souhaiterait pouvoir voir émerger un dossier à minima par canton. Nous avons 23 cantons sur le département Et si on divise l'enveloppe d'un million d'euros, ça ferait à peu près une enveloppe de 40 000 euros par canton. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque personne ou association pourra déposer un ou plusieurs dossiers. Hein, on n'est pas limité à un seul dossier. Donc on offre la possibilité de pouvoir financer plusieurs dossiers. Il se pourrait qu'un projet ne puisse pas dépenser les 40 000 euros d'enveloppe dédiée à un canton. En revanche, si le financement d'un projet représentait 5 000 euros pour le premier projet retenu, il resterait encore 35 000 euros à dépenser de l'enveloppe. Et donc, on prendrait le deuxième projet arrivé en deuxième classé par les Tarnais, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à extension de l'enveloppe allouée pour ces projets-là.
Très bien, on le rappelle, les Tarnais ont jusqu'au 15 décembre pour déposer leur projet.
15 novembre.
Désolé. Sur le site internet budgetparticipatif.tarn.fr ou bien en version papier directement au conseil départemental du Tarn. En décembre, donc le 31 décembre, ça sera l'étude de la recevabilité du projet. Et enfin, du 10 janvier au 6 mars, ça sera le temps pour les Tarnais de voter pour les différents projets qui seront proposés.
Voilà, et tout Tarnais âgé de plus de 16 ans. Voilà, à partir de 16 ans et plus.
L'annonce des résultats se fera le 4 mars 2022 et Radio Albiges sera là justement pour vous informer des différents projets retenus. Madame Eva Géraud, comme on dit chez nous, grand merci Père Toutaco.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Comme un lundi sur Radio Albiges.
Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Midi 28 sur les ondes de Radio Albiges, dans Comme un lundi, pour ceux qui est le direct en tout cas, peut-être c'est 18h28 pour ceux qui nous écoutent le soir. Et on va faire une petite pause musicale avec John Black Band qui sera en concert avec Totem Crew jeudi 7 octobre prochain à 20h30 au Noctambule à la MJC d'Albi. On écoute John Black Band.
Encore vas-y chérie, t'es aussi comme t'es.
John Black Band à retrouver en concert le jeudi 7 octobre du côté du Noctambule, la salle de concert de la MJC d'Albi, avec aussi le collectif de rappeurs albigeois, le Totem Crew. À noter que ce jeudi 30 septembre à 18h, Pollux vous proposera un Discovery Music Tour, une visite ludique et conviviale du centre historique d'Albi, ponctuée par des concerts gratuits et éclectiques dans des lieux atypiques. Voilà, ce jeudi 30 septembre à 18h, départ place du Vigan, le Discovery Music Tour de Pollux. Pollux qu'on retrouvera cette semaine sur Radio Albi Jazz. Donc ce lundi dans le créneau punk de Radio Albi Jazz, ce lundi à 20h. Et pour la rediffusion, oui, je crois bien que c'est le jeudi à 22h.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Allez, allez, on arrête un petit peu de faire la tête. C'est comme lundi sur Radio Albi Jazz.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Édouard Baird sur les ondes de Radio Albi Jazz notamment. Merci, on le remercie en tout cas et à cette longue virgule qui nous donne la pêche. Demain mardi 28 septembre à 20h30 au Café Plume de Lautrec, vous est proposé un film autour de la thématique du travail, 68 Mon père et les clous, suivi d'un débat en visioconférence avec le réalisateur, et tout ça, ça se passe dans le hors les murs du festival Echo d'ici, Echo d'ailleurs, qui lui aura lieu la semaine suivante à la Bastide Rouérou. On en parle tout de suite. Lorsque les vivants deviennent sourds, faut-il se taire ? Y a-t-il un sens à parler dans le désert du silence des autres ? Ce sont les mots de Christophe de Pomphilly. Christophe de Pomphilly, dont le nom souligne chaque année depuis 14 ans, l'intitulé du festival Echo d'ici, Echo d'ailleurs, à la Bastide Rouérou, dans le sud du Tarn. Et ces mots résonnent d'autant plus dans l'actualité récente. On est en ligne avec Marie Bernard, directrice artistique du festival, pour nous parler de l'édition 2021 d'Echo d'ici, Echo d'ailleurs, festival de films documentaires qui aura lieu. C'est 8, 9 et 10 octobre à la Bastide de Rouérou. Bonjour Marie.
Bonjour Will.
Alors comment ça va Marie ?
Eh bien ça va, K1K, hein, avec cette période un peu compliquée, mais on est plein d'élan et d'énergie pour cette nouvelle édition, vu que l'an dernier on n'a pas pu faire une édition véritable du festival.
Alors, je le disais en introduction, en citant Christophe de Pomphilly, quelle étrange époque que nous vivons. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler le lien du festival à Christophe et au passage, qui il est pour celles et ceux qui n'ont pas nos âges ?
Alors, Christophe de Pomphilly était un grand, je dis était puisqu'il n'est plus de ce monde depuis 2006, était un réalisateur, journaliste et aussi écrivain, qui a beaucoup œuvré pour l'Afghanistan. Donc, il est parti en Afghanistan un certain nombre de fois pour parler de Massoud et de la résistance afghane. Il a été un des premiers dans les années 80, quand l'Afghanistan s'est fait envahir par la Russie. Et après, donc, dans les années 2000, par rapport à l'introduction des talibans et voilà, et Massoud a été malheureusement tué le 9 septembre avant les attentats du 11 par deux journalistes et une caméra piégée. Donc ce qui est un peu dingue par rapport à l'histoire de Christophe qui disait que en fait une caméra valait mieux que des fusils. Donc c'est un peu fou. Voilà, Christophe rappelle avec cette actualité, rappelle comme il avait raison. Il a fait pendant toute sa vie, il a œuvré sur l'Afghanistan en disant que si on ne faisait rien, l'extrémisme arriverait. Et voilà, Massoud est mort. Les talibans sont de nouveau à Kaboul et que le fils de Massoud essaye de faire une résistance, mais qui n'a aucun soutien ben, de l'Europe et il n'a aucun billet. Donc là, pour le moment, c'est un peu compliqué, je crois.
On lui doit justement à Christophe de Pontfilly pas mal de reportages, de documentaires et d'écrits aussi, des livres autour de la figure de Massoud.
Oui, voilà. Oui. Alors, en fait, Christophe a réalisé une cinquantaine de documentaires, dont une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas exactement le nombre, sur l'Afghanistan. Et ce qu'il a fait vraiment connaître, malheureusement, c'est la mort de Massoud avec son film Massoud l'Afghan, qui passe et repasse sans arrêt sur les chaînes dès qu'il y a un événement en Afghanistan. Et ce film était un film pour porter à la base l'histoire de Massoud et de sa résistance. Massoud, le lion du Panchir, on l'appelait. Et Christophe n'a pas fait que des films sur l'Afghanistan, bien au contraire, il a toute une série de films sur les gens comme toi, comme nous, des profs, des instits, des gens lambda, et c'est toujours des magnifiques personnages. Voilà.
En tout cas, du coup, Christophe, il vous a passé à quelques-uns à la Bastide Vrairou le goût du documentaire et le goût de la discussion autour du documentaire. Là, on est sur la 14e édition du Festival Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On est le vendredi et on diffuse cette interview le lundi. Mais il y a déjà aussi des choses qui se passent hors les murs. On renvoie les auditeurs sur notre agenda pour voir ce qui se passe hors les murs, en dehors de la Bastide. Mais du coup, c'est 8, 9 et 10 octobre. Le thème, c'est quoi ce travail ? Alors, comment vous déclinez cette thématique sur les 3 jours de projection de cette année ?
Alors, cette thématique, on l'a reprise de l'an dernier, puisqu'on avait fait une mini édition en passant que 4 fils pour maintenir le week-end pour les gens d'ici. Là, on y va plein pot avec une trentaine de films. Et on a la grande joie d'accueillir Gérard Mordillat, qui a quand même fait pas mal de films sur le travail, sur les patrons, entre autres, donc avec La Voix de son maître. Et Gérard Mordillat va être parmi nous pendant tout le week-end. On lui fait un chapeau bas et on ouvrira le festival, une fois n'est pas coutume, avec un film de fiction donc qu'il a réalisé, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière ». Avec Virginie Ledoyen. Alors, pourquoi un film de fiction ? Parce que ce film-là, particulièrement, rappelle l'histoire de la vallée du Thoré autour du textile et des luttes qu'on a pu vivre sur la Bastide. Ça fait vraiment un parallèle avec l'histoire locale. C'est pour ça que on a choisi ce film « Mélancolie ouvrière » en ouverture de Gérard Mordillat. Après, Gérard va nous accompagner pour l'Agora, donc sur « C'est quoi ce travail ?», un temps un peu privilégié où on ne passe pas de film pendant une heure. On essaye de développer le thème avec, là, on sera aussi en compagnie de Sandro de Gasparo, qui est un chercheur, ergonome et qui fait des recherches sur l'analyse du travail, les mutations de l'industrie et du service. Donc ça va être super intéressant et je pense qu'on va quand même axer cette agora sur ce qui nous arrive aujourd'hui avec la crise sanitaire et ce que ça implique dans nos contraintes, dans le travail que nous faisons. Nous, en tant que structure culturelle, mais aussi, bien sûr, tous les gens dans d'autres professions qui sont vraiment impactés par cette crise. Et Gérard Mordillat, on le retrouvera aussi le dimanche, donc avec une séance un peu inédite autour de son œuvre, parce que Gérard Mordillat, c'est aussi un écrivain, un poète, en dehors du cinéma. Et là, c'est une séance un peu spéciale qui est organisée par le directeur d'Occitanie Film, qui s'appelle Karine Giatti. Une petite rencontre d'une heure. Et à la suite de ça, on passera un film, La Voix de son maître, donc qui est un film qui date de 78 où ce sont des portraits de patrons qu'il avait co-réalisé avec Nicolas Philibert. Et bon, c'est un magnifique film sur le patron. Voilà. Après, bien sûr, on a plein de choses super belles et intéressantes. La carte blanche de la Cinémathèque de Toulouse, bien sûr, avec les Moroutiers. Appalante, bon, qui est un film de ciné du collectif Ciné-Lutte. On a la joie aussi d'accueillir une réalisatrice, Eve Duchemin, qui vient de Belgique et dont je suis le travail depuis plusieurs années, donc que j'adore, des très très beaux portraits. L'un sur la jeunesse actuelle, bon, l'âge adulte, sur le portrait d'une jeune à 20 ans qui se débat entre gagner sa vie, et un portrait aussi un peu atypique d'une directrice d'usine. Que dire encore, on a une avant-première, ce qui est quand même toujours sympathique. En fait, on en a plusieurs, hein. Il y en a, mais elles sont les deux qu'on a. Donc, on va ouvrir une avant-première en avant-première avec Les Mains dans la Terre le 2 octobre à la Bastide Rohéroux. On va passer le 30 dans les Hors les Murs, Debout les Femmes de François Ruffin, mais sur le festival lui-même, donc le samedi soir, on accueillera un jeune réalisateur qui s'appelle Brice Gravel, qui a fait un portrait un peu unique des idées de génie sur le directeur, en fait, le patron de Jiffy et de Kiabi. Donc, un portrait un petit peu extrêmement dérangeant. Et dont on attend vraiment beaucoup de réactions du public. Et quoi dire d'autre sur tout ça? Les films sont merveilleux. Oui. Et on a deux rendez-vous un petit peu le matin. Maintenant, on organise le matin une rencontre un peu spéciale, avec des projections, bien sûr, mais c'est toujours des rencontres un peu privilégiées. Donc, le samedi, on rencontrera Olivia Gay, qu'on a accueilli en résidence, qui est photographe, qu'on a accueilli en résidence au mois de juin cette année, et qui va d'ailleurs exposer au festival son travail, qui s'appelle À domicile. Elle a suivi un groupe d'infirmières en milieu rural de la Bastide Rohéroux. Et là, on va parler de son métier, donc le travail, la photographie, est-ce un album de famille? Et le dimanche, on va accueillir aussi, j'aime bien en fait le cinéma belge, et j'aime beaucoup le travail du centre de le CVB, le centre vidéo de Bruxelles, donc avec son directeur qui viendra en fait commenter une heure d'extrait de films sur qu'ils ont produit sur le travail, donc, et une nouvelle aussi plateforme numérique transmédia, donc qui s'appelle nosfutures.net, qui a été créé dans le temps du confinement en 2020.
Et on peut retrouver tout ce programme sur le site www.ecodudoc.fr. Merci beaucoup Marie Bernard. Donc rendez-vous les 8, 9 et 10 octobre à la Bastide Rouérou dans le sud du Tarn, et un peu avant Hors les Murs. On renvoie donc sur le site, il y a pas mal de choses aussi sur Hors les Murs, sur des projections qui sont faites en dehors de la Bastide, presque jusqu'à l'Albigeois. Je crois qu'il y a des choses qui se passent dans l'Albigeois,
oui,
aussi.
Oui, il y a un film à Albi, Debout les Femmes, à la scène nationale le 30 septembre.
Voilà. Oui. Merci beaucoup encore Marie Bernard, on fait un coucou à toute l'équipe du festival et on vous souhaite une bonne 14e édition.
Merci beaucoup Will, et on espère vous voir.
On va essayer.
À bientôt.
À bientôt. Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec Marie Bernard du Festival Éco d'ici, Éco d'ailleurs, prochainement sur nos ondes et en podcast sur notre site internet www.radioalbigès.com. Vous vous souvenez peut-être avoir entendu la voix de Java sur notre boîte locale et vocale, la mouette qu'elle se fait appeler, la Java qui fait danser les mots et met en scène ses colères, parfois trop longues pour notre répondeur. Ces messages n'en méritent pas moins un écho radiophonique. Alors nous avons rencontré Java la mouette en chair et en plume pour entendre sa voix sans filtre téléphonique. Un portrait profil sonore se prépare dans les prochaines semaines sur ce drôle d'oiseau, mais pour vous remettre en tête sa gouaille, on vous propose 10 minutes de Java en colère.
Bon, alors c'est un pamphlot, hein. Voilà, ça s'appelle Vaivictus. Alors pourquoi Vaivictus? Vous allez voir à la fin. C'est un coup de colère d'abord. Un copain là qui m'avait demandé si j'avais pas quelques mots. Je pourrais faire des slogans pour anticiper déjà au mois de mai des manifestations pour le projet de passe sanitaire qui devait être voté à l'Assemblée, présenté à l'Assemblée, puis au Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée. Et qu'on n'était pas trop d'accord. Donc voilà. Ça commence comme ça. Un passe? Ça, non. Se taire? Ça, non. No pasaran. Et c'est quoi votre projet de société? Hygiénisme? Hygiénilisme? Lavage de nos cerfs, de nos veaux. Nos cerveaux deviennent trop lents à la détente. Passe et nos idées à la machine? On veut conserver nos couleurs d'origine, les montrer et les mélanger. Notre hygiène mentale est bousillée par la monoculture. Vous êtes, messieurs les rois, de dangereux monomaniaques, d'abominables castrateurs, d'infâmes dictateurs. Dictateurs. Vous méritez de passer dans le sani broyeur. Vous faites de la merde. Vous êtes des fumiers. Laissez-nous fumer nos jardins avec du purin d'ortie plutôt qu'avec des déjections chimiques et pharmaceutiques. Et laissez-nous fumer aussi ce qui nous fait du bien sans nous emprisonner ou nous verbaliser pour ça. Ne vous trompez pas de cible. Les plus grands délinquants sont parmi vous. Ils sont en col blanc. Vous faites vos petites affaires avec et stigmatisez les basanés de base, alors que vous offrez aux rois de leur pays d'origine le prestige d'un PSG. C'est quoi ce deal de merde? Nos présidents sont VRP, du béton et des armes. Rimbaud a montré le chemin. Il a perdu sa jambe et sa si belle poésie. Allez, légalisez, les gars. On veut de la permaculture, nous. Des herbes folles, des bleuets, des coquelicots et des plantes à cannabidiol. Laissez-nous faire notre CBD en local qui nos mots peuvent soulager. Allez, merci. De la culture, en permanence, pour la révolution permanente. On la veut frisée, ébouriffée, mal coiffée, tressée, et surtout pas lisse, lissée, polissée. Une impasse, un non-passaran, ça nie la terre, ça nie la vie, et ça voudrait nous faire taire. Bon, voilà un coup de colle à l'air de la sécu. Sécu-cu, pas mérité, pas nécessaire, pas sanitaire. De la colère. Pour leurs manières. Les manières tellement grossières, dévalées à la manœuvre de la poignée de ploutocrates qui vampirisent la planète et bientôt tout l'univers. Et leurs manières putassières pour étouffer direct dans l'œuf et ainsi rendre velléitaire toute initiative populaire. Ces viles manières nous autorisent. Que dis-je ? Nous y oblige à dégainer vocabulaire à la hauteur de leur bassesse la plus vulgaire, la plus vulgaire. Tu as ravivé ma colère, mon ami. Basta così. Et hasta la vittoria. Le masque. Oui. Mais sur les yeux. et pour le grand carnaval planétaire. Et faut-il encore préparer nos mouchoirs pour un éternel reconfinement ? Pour un traçage perpétuel de nos pensées, phagocytées par algorithmes imposés ? Moi, je lève rouge mon mouchoir, le porter comme un bandana. Je veux pouvoir cracher sur leur tombe à ces pédants, impédagogues. Je veux pouvoir parler de poésie sans écraser les fleurs sauvages. Ne pas souffrir de trop de transparence dans une cour aux murs gris où l'aube n'aurait plus sa chance. Je veux abattre à coups de mots dans l'omoplate l'effroyable menace qui nous fait si froid au dos. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat. Écarlate mon mouchoir qui pense les plaies de leur sang. Rouge, écarlate. Oh, écarlate. Au moindre écart, des coups de latte. Dans les manifs, des coups, du sang, des coups qui partent. Allô ? Allô, écarlate. Elles ne partent pas, les taches de sang. Non, pas comme ça. À chaque écart, chaque pancarte, des coups de latte, des goûts du sang. Moi, je veux danser encore dans une grande farandole de nos pensées et de nos corps enlacés. Je veux pouvoir accompagner mes morts dans la tendresse et la dignité quand leur heure viendra, sans peur et sans le remords de les avoir abandonnés aux appareils présupposés les réanimer. Parallèle et bipède, retrouvons nos semblables, aux vers moulus, aux vers moulants, aux vers trinquants, au nom du vers, du vice et du simple d'esprit, libre et décomplexé, en dégustant du saint nectaire, saint sanitaire, priez pour nous. Délivrez-nous de la tentation d'obéir comme des moutons, de pratiquer des pensées sectaires. Délivrez-nous de l'allégeance à ces morpions qui se jouent de nous comme des pions, qui nous baladent sur l'échiquier avec toujours 10 coups d'avance, des blancs, des noirs. Stop ! Tous métisses. Des capotes contre le sida, des barrières à nos baisers. Des baillons à nos paroles, des brides à nos défilés, des black blocks pour nous faire tabasser, nous décrédibiliser. On n'est pas encore débiles, hein, malgré tous vos efforts médiatisés. Des anticorps pour surtout pas nous mélanger. Des anticorps d'élite, très bien payés. Des anti-nous, nous, tous ensemble. Un très bad trip, un bad ciné. Cinémascotte, impasse, père et passe, tour de passe-passe. Pas vacciné ? Toi, pas passé, nous dira l'appli passeport téléchargé. Passeport là sur mon portable, je deviendrai passe-muraille, passé partout, envers et contre. Moi, pas toutou. Culture en boxe ? Assez d'intox. Allez, on boxe, avec, sans gants, sans glands nos petits doigts, si on le doit. Ça sourde, ça va faire mal, ça va gazer, ça va taser. Prenons le pouvoir de notre commun, de notre planète commune. C'est nous, les canons de la culture. C'est le peuple grandeur nature. La contre-celle aseptisée. Canon à boire, pour trinquer. Tourner contre les Versaillais. Canon à eau, ça va gicler. C'est nous qui ferons nos ratures de notre propre chef. Nous devrons à nouveau détrôner les nôtres en instaurant la grande commune, celle internationale. Plus de nations, que des pays, que des régions, plus de tensions. Allez, amis, allez, putain, tu fais la passe. Un en avant, c'est une faute au rugby. Et en avant, c'est eux qui trichent, ils font les règles, nous les imposent. Nous, on s'oppose. Nous ne serons plus leur otage. Sus à la grande arnaque. place au sabotage. On soulèvera le bouclier, comme Brennus. Vae Victus ! Bon, c'est pas tendre tout ça, je reconnais.
Merci, merci à Java qu'on retrouvera donc dans un portrait sonore dans quelques semaines sur nos ondes. On salue aussi Fab au passage, Java la mouette qu'on avait découvert sur la boîte locale et vocale, le répondeur petit frère du répondeur de là-bas si j'y suis du vieux Mermet. La boîte locale justement, on l'écoute dans ce commun lundi.
Salut les albigeois, ici c'est Pierrot, Zonzon, Momo et Bastoun. On cherche une coloc pour 4 avec 3 chambres dans la région d'Albi, sans chichi, et qui pourrait accueillir une petite chienne et un petit chat, avec un petit jardin bien sûr. On vous fait des gros bisous et vous pouvez m'appeler au 06 41 69 73 21.
La boîte locale et vocale de Radio Albitzès, c'est au 05 63 77 61 75.
Allez, comme lundi, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, cette émission sera rediffusée donc ce lundi à 18h et disponible prochainement en podcast en passant par notre site radioalbitzès.com.
C'est ça, vous l'avez entendu, on peut laisser des messages, des petites annonces en fait, si on cherche des colocs ou je sais pas quoi, une roue de bagnole, ce qu'on veut. On fait des petites annonces, notamment on cite des copains, nos nouveaux voisins, l'atelier qui est au 7 Square Amiral Abrial à Albi, dans le quartier de la Panouse, l'atelier qui propose une sieste musicale ce 29 septembre de 14h à 15h30 en compagnie de Samengo. Donc n'hésitez pas, c'est pour tout le monde, tisane, nuit calme et rooibos fournis, repos garanti, enfin bienvenue, réservation conseillée cela dit, donc auprès de l'atelier à La Panouse.
Merci Will, on se retrouve dans quelques petites minutes pour l'agenda, merci Melvin pour la réalisation technique à Dilunskebe.